parle-nous, Seigneur, au travers de ton serviteur, cet instrument inutile, et bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, vous savez qu'on avait la convention missionnaire de la famille Laborne. Les gens sont venus de partout, de l'Europe, de l'Australie, de l'Afrique, des États-Unis. Et ce matin, j'ai demandé au pasteur Jean Adelard Bakoubile de nous apporter la parole de Dieu. Le frère, c'est un frère de la bombe, et il est pasteur à Champagne. C'est là que nous avions tenu notre convention missionnaire aux États-Unis, non loin de Chicago. Et sans plus tarder, je vais demander qu'il vienne prendre la parole et nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre capacité vient de toi. Je te prie de rendre à ton serviteur et de bénir la parole qui sortira de sa bouche au nom de Jésus. Amen. Amen.
Jésus. Shalom, shalom. Nous disons merci à notre Dieu qui a rendu ce moment possible. Et aussi nous disons merci à papa et maman, papa, maman, merci beaucoup pour avoir accepté à ce que nous puissions partager la parole de Dieu. Et merci à toute l'Église pour votre disponibilité, à ce que nous puissions demeurer dans sa présence et autour de sa parole. Papa a accepté avec toute l'Église les salutations de mon épouse, mes quatre enfants et de notre église, la Borne Champagne. Dieu soit loué. Est-ce qu'une fois de plus on peut prier une minute? Tendre Père, je me souviens de cette prière qui sortait toujours de la bouche de ton serviteur, Marcel, selon lequel le messager n'est pas plus grand que le message. Merci, parce que le plus grand c'est toi. Nous voulons que toi seul tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Oui, avec le minute qui nous ont été accordés, mais que papa accepte que je dise aussi un mot, parce que hier, il avait fini tout ce que j'avais prévu, lorsqu'il m'a demandé de venir partager la parole de Dieu. Il a parlé de ce que j'allais dire, et puis quand je suis retourné, je me disais, Seigneur, est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais le Seigneur m'a vraiment convaincu que rester dans les traces de ce Père, c'est vraiment merveilleux. Amen. Surtout lorsque vous devez être debout derrière le professeur, soyez-en sûr qu'il est capable de côté, et je prie que Dieu m'aide pour que cette cotation ne puisse pas nous affaiblir. En fait, ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu sous le thème à celui qui est capable d'agir par la puissance qui agit en nous au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous nous imaginons, au-delà de ce que nous avons comme capacité. Celui-là, c'est notre Dieu. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur ne peut jamais agir là où il n'y a pas sa puissance. Car la Bible nous dit qu'il agit au-delà. Tout d'abord, il faut qu'il y ait la puissance qui agit en nous. Pas n'importe quelle puissance, il faut que ça soit sa puissance. Quelqu'un qui n'a pas la puissance de Dieu, même s'il peut répéter maintes fois ce passage, je vous assure, cela n'aura aucun impact. Voilà pourquoi, avec le temps, nous allons lire quelques passages. C'est dans Éphésiens. Nous allons commencer avec Éphésiens chapitre 1. Parce que ce que Paul a dit au chapitre 3, c'est la suite logique de ce qu'il avait commencé comme prière à partir de Éphésiens chapitre 1. Nous lisons Éphésiens chapitre 1 à partir de verset 15 jusqu'au verset 23. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous les connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec le membre du peuple saint. Et quel est, soulignez cela, et quel est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, retenez encore cela, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, de toute puissance, de toute domination, et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Amen. On peut tourner vite pour aller au chapitre 3. À partir de verset 14 jusqu'au 22. C'est la suite de cette prière qu'il avait commencé. Il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance, retenez encore cela, fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Dieu est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Retenez cela. Ainsi, rempli de toute la plénitude de Dieu. Maintenant, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour toute l'éternité. Amen. Le temps est tellement court, mais acceptez que je puisse parler d'autre chose sans pour autant lire. Dans Jean chapitre 3, verset 6, pour ceux qui lisent, en fait, la parole de Dieu, c'est cette histoire de notre savant qui maîtrisait la parole de Dieu à cette époque, Nicodème. Il est venu, lui le maître, il est venu la nuit. Nous savons dans quel contexte il avait peur, mais il était convaincu. Il est venu la nuit, il a commencé à poser des questions à notre Seigneur Jésus. Et c'est là où Jésus va lui parler de la première étape la plus importante. Parce que tu ne peux pas être rempli, tu ne peux pas expérimenter les au-delà sans que tu aies né de nouveau. Amen. Alors il est en train de lui dire, écoutez mon frère Nicodème, tu ne peux jamais comprendre ces choses si tu n'es pas né de nouveau. Alors il lui dit, est-ce que à mon âge je peux encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître? Et c'est là où Jean 3, 6, Jésus devient maintenant clair, il monte maintenant. Il dit, ce qui vient de l'humain est humain, et ce qui vient de l'esprit est esprit. Amen. Et d'autres versions disent, ceux qui sont nés de la chair est chair, et ceux qui sont nés de l'esprit est esprit. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est né de l'esprit? Sinon, vous n'allez rien comprendre de ce qui va se passer. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau, est-ce qu'il peut se lever? On ne peut pas attendre seulement la fin, parce qu'on peut dire que nous avons fini avec la prédication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, bien sûr, j'ai entendu. Mais ce qui est né de chair est chair. Mais je veux faire une autre expérience de naître de l'esprit. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui est courageux, qui peut se lever? Les yeux ouverts. Oh, il s'est levé. Gloire au Seigneur. Tendre Père, je t'en supplie. Tu vois, ceux qui se lèvent, ils sont tellement courageux. Ils réalisent, Seigneur, qu'ils ont besoin de faire cette expérience. Cette expérience que l'humain ne peut jamais comprendre s'il n'entre pas dans la dimension supérieure. Je prie pour que tu les visites ce matin, cher Saint-Esprit, que leurs oreilles s'ouvrent et que leur cœur soit sensible à ce que tu dis à ton peuple. Amen. Oui, beaucoup de nos églises sont réellement pleines de Nicodème. C'est-à-dire ceux qui sont nés par la première naissance charnelle de papa et maman. Oui, ils sont là. Les églises sont pleines de ces hommes et de ces femmes que nous appelons Nicodème. Oui, vaut mieux qu'il y ait de telles personnes dans les églises, parce que ce sont ceux-là par qui un jour le Saint-Esprit peut faire dans sa maternité pour qu'ils naissent sur le plan spirituel. Amen. Ce ne sont pas des choses qui se passent sur la rue. Il faut être tel que nous sommes comme ça. Car ces jours-là de Pentecôte, ils étaient comme ça. Mais ils priaient. Il y a eu un tout à coup. Et le même jour, ceux qui ont entendu, ils sont venus. Il y a eu plus de 3000 qui se sont donnés au Seigneur. C'est ici et nulle part ailleurs. Amen. Et Jésus va continuer alors qu'il est revenu, parce que Éphésiens nous parle de sa résurrection, qui est le point culminant. Tel que Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. Du fait qu'il est ressuscité, alors nous voulons nous dire que nous sommes les plus heureux. Amen. Éphésiens nous trace cette affaire, il nous parle de Christ ressuscité. Mais regardez ce que Christ ressuscité a pu faire dans Jean chapitre 20, verset 19 jusqu'au verset 23. Et cela, ça se passe après la résurrection. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Jésus ne l'avait pas fait lorsqu'il est encore dans la chair? Je me suis posé beaucoup de questions, mais gloire au Seigneur, il m'a aidé à comprendre une chose, car Jésus n'était pas encore glorifié. Il a été question que Jésus soit glorifié, c'est-à-dire, c'est lorsqu'il a été glorifié que la Bible dit, il est devenu une âme vivifiante qui veut intervenir. Alors voici ce qu'il dit dans Jean chapitre 20. On pouvait commencer par 19, mais je saute pour prendre seulement verset 22. Il dit, après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua en disant, recevez l'Esprit Saint. Recevez. Mais depuis que Jésus a fait 3 ans et demi, je n'ai pas vu ça. Mais c'est pour la première fois que je me rends compte qu'il a soufflé. Et lorsque on a fait une étude un peu avec certains commentateurs de la Bible, ce verbe souffler, c'est le même sens que le verbe qu'a utilisé Dieu dans Genèse 2, 7, lorsqu'il a crié. Vous savez que nous avons coûté à Dieu. Et pour toi et moi, Dieu s'est sali. Pour les autres créatures, Dieu pouvait parler. Mais pour l'homme, non seulement il y a eu cette rassemblée divine pour dire « faisons l'homme à notre image » et Dieu est descendu pour prendre la terre pour former l'homme. Cela prouve l'importance que Dieu a pu attacher à l'homme. Mais la Bible déclare que cette masse était inerte. Cette masse ne bougeait pas, n'avait pas de vie. Et pour qu'il y ait vie, il lui a communiqué son souffle. Il a soufflé. Et la Bible déclare, cet être devient un être vivant. Amen. Dans cet être vivant, il y a les deux parties. Il y a une partie matérielle, qui est le corps, et il y a une partie immatérielle qui est le souffle. Donc, en toi et moi, il y a ces deux parties. Mais lorsque la chute est venue, l'homme ne pouvait plus, parce que c'est par son souffle que l'homme est en relation avec Dieu, parce que c'est son souffle. Mais à cause du péché, il y a eu cette rupture. Mais est-ce que Dieu ne savait pas que l'homme allait pécher? Si moi je vous dis non, alors je fais des dieux menteurs. Dieu le savait parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Mais Dieu, dans sa connaissance, il savait bien que l'homme va tomber. Parce qu'il avait déjà conçu qu'il je veux créer. Mais ce n'est pas à cause du diable qui a été précipité. Enfin, ce n'est pas le sujet ce matin. Ce n'est pas à cause du diable que Dieu allait laisser faire. Non, non. Dieu ne peut jamais être arrêté par qui que ce soit. S'il veut agir, il agit. Dieu ne peut jamais arrêter le plan qu'il a parce qu'il y a les sorciers de ton village, parce qu'il y a les oncles qui parlent, parce que dans votre vraiment famille, il y a ceci, cela. Non, Dieu ne peut jamais être intimidé par ces choses. Mais Dieu qui savait, Dieu qui avait la connaissance, Dieu va révéler cela dans Genèse 3:15. C'est la première fois que Dieu va étaler le plan de la rédemption. Amen. Et ce plan de la rédemption, il va dire ceci. Je veux mettre inimitié entre toi. Ce qui m'étonne, c'est lorsqu'il parle de la descendance de la femme. Est-ce qu'une femme peut avoir une descendance? La Bible, lorsqu'on parle de généalogie, on voit toujours père engendra. Père engendra, n'est-ce pas vrai? Mais comment expliquer que Dieu va parler maintenant de la descendance, du fruit de la femme? Et Dieu déclare déjà la guerre. C'est parce que c'est là où j'aime beaucoup voir mes sœurs s'élever. Car Dieu a fait des choses merveilleuses par une femme. La guerre sera réelle entre toi, le diable, et entre la descendance. Il n'a pas dit une, il a dit la descendance, avec précision. C'est l'article défini. La guerre est réelle. Mais écoutez, toi, ta tête sera écrasée. Mais tu vas le mordre le talon. Lorsqu'un serpent arrive à mordre quelqu'un, il faut que le sang puisse couler. Vrai ou faux? D'office, c'était déjà le sang de la rédemption, déclaré dans Genèse 3:15. Parce qu'il ne peut jamais y avoir la restauration. Il ne peut jamais y avoir cette relation qui a été rompue à cause du péché s'il n'y a pas le sang qui va couler. Mais pas n'importe quel sang. Parce que lorsque l'homme a pu pécher, Dieu s'est chargé d'un animal. N'est-ce pas que vraiment, tu vois, il y a le sang qui a coulé. Donc, depuis le jardin d'Éden, le sang a coulé juste pour couvrir le péché. Pourquoi? C'est parce que Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a pu créer, et chaque créature portait une semence pour sa reproduction, n'est-ce pas vrai? Mais est-ce que le sang d'un animal peut-il sauver un homme? Non, parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Voilà pourquoi, comme Paul en parle, comme la chute est venue par un homme appelé Adam, alors le relèvement, le salut vient par le dernier qui s'appelle Jésus. qui s'appelle Jésus. Oh, le temps est tellement court. Mais comprenez encore une chose. Avant que Dieu commence à créer, la Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait autour. C'est-à-dire, il doit y avoir des choses que je dois faire, mais je ne peux rien faire s'il n'y a pas la présence de mon esprit. Et c'est là où on voit ce que nous croyons, la Trinité. Il y a Dieu, il y a la parole et il y a l'esprit qui est mauvais. Et c'est la même relation, c'est la même image que nous voyons quand Dieu voulait maintenant accomplir le plan de la rédemption. Nous voyons encore le Saint-Esprit lorsque l'ange est venu voir Marie. Marie se trouve devant une situation impossible. Oui, parce que Dieu fait au-delà que là où il y a son esprit. S'il n'y a pas son esprit, Dieu ne peut jamais faire. Là, j'étais en train de dire à Marie ce que Paul a pu interpréter. Il a dit, écoute, c'est vraiment en fait impossible pour toi. Mais pour Dieu, cela est possible. Pourquoi? Parce que tu seras couverte par le Saint-Esprit. À cause de l'enfant qui va sortir de tes entrailles. Ce n'est pas l'homme qui va te donner cet enfant, car tu es naturel. Marie, tu penses comme tout être humain, alors que il n'y a aucun homme qui peut sauver notre homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, depuis Adam, le péché a régné. Il y a eu la mort. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi un homme ne peut jamais sauver un autre homme lorsqu'il est né de la femme d'une manière naturelle. Il a fallu que Jésus naisse, non d'une manière naturelle, mais d'une manière spirituelle. Pourquoi cela? C'est parce que Genèse, nous voyons l'humanité. Et en Christ, il y a une nouvelle humanité. Genèse, Éden, nous avons la race humaine. En Christ, nous avons une race qui n'est plus une race humaine. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui sont sur la terre, mais qui vivent la vie du ciel. Amen. Et là, c'était possible que par l'Esprit. Voilà pourquoi, Marie, tu dois être calme. Dieu lui-même a déjà pourvu. Oh, c'est une parenthèse que je ferme. Moi, j'aime toujours encourager mes sœurs, car Dieu vous a redonné de la valeur. Et là où les hommes vous ont condamné pour dire c'est à cause d'Adam. Vous savez, c'est à cause d'Ève. Adam est en train de dire à Dieu, c'est de ta faute. Moi, j'étais bien. Et si tu ne m'avais pas placé vraiment à côté de, je n'allais pas manger. Hein? Donc, Dieu, tu es responsable. Ainsi, Dieu, il a gardé cela. Voilà pourquoi lorsque l'ange vient, Joseph n'est pas informé. Parce que ce que toi, l'homme, tu as pu faire dans le jardin, tu m'as accusé et je veux régler cette affaire avec la femme. Je veux régler cette affaire. Mais pas avec ton intervention. Alors que toi, l'homme, lorsque tu as vu Ève, tu as fait le premier poème. Mais quand le péché arrive, il y a séparation même entre l'os de mes os. Le péché apporte la division, la séparation. Mais maintenant, moi je suis responsable, ok, je veux régler cette affaire. Voilà comment Joseph va réaliser que non, tout le monde risquerait de me condamner. Parce que ma femme est enceinte. C'est que il a pu me... Hein? N'est-ce pas vrai? Lui-même, il revient encore à la charge. Pour dire non, ne répudie pas. C'est là où je trouve encore la Bible. Marie était fiancée. Mais l'ange lui dit, ne répudie pas Marie, ta femme. Enfin, c'est une parenthèse que je ferme. Pourquoi? C'est parce que Dieu règle cette affaire. La chute, c'est par Ève, tel que vous avez dit, mais maintenant, relèvement de l'humanité, je vais encore utiliser la femme. N'est-ce pas que Dieu vous a valorisé? N'est-ce pas que Dieu vous a donné de la valeur? Alors, levez-vous. Mais cela devient possible que par son esprit. Voilà pourquoi enfin Nicodème ne pouvait pas comprendre ces choses. Le souffle que Jésus a communiqué, c'est là où je me trouvais. C'est le même geste que Dieu a pu faire comme ce que je disais. Et cet acte annonce la création d'une nouvelle humanité qui recevra le souffle de la vie. Pas n'importe quel souffle de la vie. Le souffle de la vie venant de la résurrection par la prédication du pardon des péchés. Et c'est le même acte avec le même verbe dans Ézéchiel 37 avec ce qu'en fait nous connaissons vallée d'ossements. Il n'y avait pas de vie. Bien sûr, on parle que c'est vraiment fait l'Israël. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais les souffles que Dieu a pu demander de souffler, c'est la même racine. En d'autres termes, aussi longtemps qu'il n'y a pas ce souffle en toi, même si tu es vivant, même si tu marches, même si tu viens à l'église, mais tu es mort, spirituellement parlant. C'est lui qui arrive à nous donner la vie de la résurrection, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que Paul est en train de dire avec ce que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 1. Il parle de l'Esprit. L'Esprit qui a fait que Jésus revienne à la vie. Et Paul en parle que si c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus, vit en moi, il me rend fort, vainqueur de la mort. Amen. Voilà la raison pour laquelle Jésus est en train de parler au peuple lorsque nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 37, 39 jusqu'à 38. Il a été question de la fête. Nous connaissons l'histoire. Mais la Bible dit le dernier jour de la fête. C'est-à-dire, tout le monde, vous avez tout fait, vous avez fait ce que... Non, tout, vous avez mangé, vous avez bu, tout ça c'est bien beau. Mais maintenant Jésus s'élève au milieu de la foule. Il crie, c'est lui qui a soif. C'est lui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il puisse boire. Oh Jésus! Mais toi, tu n'as pas de citerne. Tu es né fils qu'un fils du charpentier. Oui, ça, c'est par rapport à la première humanité qui est charnelle. Parce que chacun peut avoir son père. Mais là, lorsque Jésus parle de ça, Jésus fait monter maintenant la chose. Il dit, c'est lui qui a soif. Le Saint-Esprit est donné qu'à celui qui a soif. À celui qui a compris que dans la chair, il n'y a rien. Et c'est dans la chair qu'il y a la peur. Même de sorciers, même d'une souris qui passe par votre toiture, tu as peur. Et Jean continue pour nous expliquer que Jésus parlait de l'Esprit qui n'avait pas encore été donné. Oh, c'est lui qui a soif. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a soif? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a soif? Vous savez, le grand problème est que... Enfin, c'est une parenthèse que je veux fermer. Et quand Jésus parlait dans... J'ai dit que c'est une parenthèse, hein, que je veux fermer vite. Et quand Jésus parlait en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, il dit... Ne vous inquiétez de rien. De ce que vous devez manger, de ce que vous devez boire, et de ce que vous devez vous vêtir. Et Jésus est à quel niveau? Il est au niveau du corps, de la chair. Parce que j'ai dit, dans l'homme, il y a les deux parties. Il y a la partie matérielle que vous pouvez vous toucher là. Mais cette partie matérielle n'avait pas de vie. Et pour que cette partie matérielle puisse avoir la vie, il était question que Dieu lui communique l'immatériel, qui est son esprit. Et le diable amène les hommes et les femmes plus dans le besoin que nous avons étudié primaire, hein, manger, boire et se vêtir. Hein. Et beaucoup viennent à l'église pour ça. Seigneur, donne-moi du travail. Ce n'est pas mauvais. OK? Seigneur, donc, nous sommes plus dans le besoin matériel. Moi je vis dans un monde plus matérialiste. Pourquoi? Parce que c'est le matériel qui attire. Alors que Dieu veut nous amener dans une dimension supérieure, parce que depuis Genèse 3:15, la guerre a été déclarée. Vendu au péché. Esclave. Mais pour que tu sois sauvé, c'est toute une guerre. Et même ceux qui prétendent être sauvés, ils ne comprennent pas que Jésus, le besoin dont il parle, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est en 1999, au mois de juillet, qu'il m'avait parlé de ça. Voilà pourquoi je ne demande pas à Dieu à manger, à boire, depuis qu'il m'avait convaincu. Parce qu'il dit que ce sont les païens qui en ont besoin. Ce sont les païens. Si toi tu es dans ces choses, c'est que tu es encore païen. Il faut que tu te convertisses. Si toi tu viens vraiment à l'église pour cela, c'est que tu n'as rien compris pourquoi il a payé de sa vie. Amen. Enfin, excusez-moi si cela vous fait mal. Mais c'est ça la vérité. Les églises, il faut voir lorsqu'on dit « requête, prions ». Vous allez vous rendre compte que nous sommes plus dans ces choses. Alors que ce que lui veut nous donner, c'est plus que ça, c'est son esprit. Pourquoi son esprit? Parce que dans Job, il dit réellement dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu, non? C'est que quand Dieu me voit moi, et Dieu ne me voit pas par rapport à la partie matérielle. Dieu me voit par rapport à son esprit. Parce que je suis esprit. Voilà pourquoi lorsque tu es un esprit mort, Éphésiens nous en parle, au chapitre 1, Jésus lorsqu'il est ressuscité, on dit toute domination, toute royauté, tout s'est mis où? Sous les pieds de Jésus. Mais quand tu n'as pas encore expérimenté cette dimension-là de l'esprit pour que tu puisses vivre dans l'esprit, avoir les besoins de l'esprit, alors non seulement tu es lié à ce qui est matériel, et tu es encore sous la domination du diable. Et Dieu ne peut jamais faire au-delà s'il n'y a pas son esprit. Car c'est par son esprit que Jésus a dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant. Et Dieu à celui qui par la puissance qui agit en nous. Est-ce que la puissance agit en toi? La puissance ne peut jamais agir dans un homme charnel, dans un païen. Au fait, c'est à trois niveaux que l'esprit agit. Avant que je me convertisse, l'esprit n'est pas en moi. L'esprit est hors de moi. Mais il est en train d'exercer ses influences sur moi. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque l'Esprit viendra, il va vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Là, c'est à un homme païen. L'Esprit n'est pas en lui. Mais il est en train de chercher à vous séduire, à vous faire comprendre. Et lorsque tu acceptes Jésus, parce que je disais tantôt avec notre frère Nicodème, que la première partie, la première étape pour que tu comprennes ces choses, c'est naître de nouveau. On est né de nouveau, c'est dans la maternité du Saint-Esprit. Car c'est lui qui convainc. C'est ça ce qu'il fait comme travail. Et quand tu es né, spirituellement parlant, il va te donner les désirs spirituels. Il va te donner les plaisirs spirituels. Il va te donner les sentiments spirituels, différents de tout ce qui est naturel. Est-ce que c'est clair quand même? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, hein? Enfin, je n'ai pas encore lu mes notes, mais que Dieu me pardonne. Mais c'est sa parole, papa. Ainsi, frères, sœurs, chaque jour, nous devons être de ceux qui disent, « Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. » Dans ce que nous avons lu, dans Éphésiens 1, nous avons entendu, parce qu'il avait dit, souligné, puissance, puissamment, dit, vous serez fortifiés puissamment. On doit fortifier celui qui est faible, non? Mais si toi tu es fort, mais est-ce qu'on peut le faire? Mais comment tu peux être vraiment fortifié si ce n'est que par le Saint-Esprit? Comment tu peux résister en fait au péché? Comment tu peux résister au diable pour qu'il puisse fuir loin de toi si ce n'est que par l'Esprit qui te fortifie? Et cet Esprit qui te fortifie, c'est ça la deuxième étape. L'Esprit qui était hors de moi. Quand je donne ma vie au Seigneur, alors l'Esprit habite maintenant à moi. Beaucoup de gens aiment Jésus, Jésus Emmanuel. Nous connaissons la définition, non? Emmanuel veut dire quoi? Il est parmi nous, non? Il est là ce matin, il est là. On se contente de ça. C'est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais Jésus, il veut habiter en nous par son esprit. Et cela devient possible que lorsque tu passes par la nouvelle naissance, la régénération, c'est une transformation totale de l'homme, métanoïa. À ce moment-là, quand maintenant l'Esprit de Dieu habite en toi, nous arrivons maintenant à la troisième étape. Parce que non seulement il est là pour te fortifier, il est là pour t'aider, il est là pour te soutenir, il est là pour te conduire. Parce que Jésus dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de vérité. Qui s'appelle vérité? C'est Jésus. Il est en train de dire, c'est l'autre moi. L'Esprit de vérité, c'est l'autre moi. C'est moi-même. Mais dans un corps qui n'est plus limité. Parce qu'après sa mort, il pouvait entrer dans une maison fermée. Alors qu'avant, il ne pouvait pas. Alors quand maintenant l'Esprit habite en toi, alors ça commence maintenant une autre étape, la plénitude. Nous avons entendu cela, non? La plénitude. Plénitude, c'est-à-dire plein. C'est-à-dire, tu es tellement rempli. L'Esprit maintenant cherche à prendre tout ton être. L'Esprit va prendre tout toi, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire, il n'y a plus une chambre secrète à moi. Il va contrôler la totalité de ma vie. Et là, c'est lorsque, vous savez, quand vous prenez le verre vide, Vous le mettez à un robinet. Il n'est pas rempli, n'est-ce pas? Mais c'est lorsqu'une goutte tombe, une goutte tombe, une goutte tombe, jusqu'à ce qu'il sera rempli jusqu'à déborder. Dieu veut nous voir être remplis de son esprit jusqu'à déborder. Mais comment maintenant je peux être rempli de son esprit jusqu'à déborder? Nous n'avons pas lu, mais c'est ce que Jésus a pu dire dans Jean 6, 63. L'esprit vivifie, mais la chair est faible. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Tu vas voir l'esprit de Dieu, médite la parole jour et nuit. Tu veux avoir l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu, c'est dans sa parole. Poussé par l'esprit, les hommes ont pu parler de la part de Dieu. Et tu ne peux jamais comprendre ce qui est écrit ici, si aussi tu n'es pas poussé par l'esprit. Parce que ceux qui ont écrit, c'était poussé par l'esprit. Il faut que je sois aussi poussé par l'esprit pour avoir la fin. Alors Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. L'esprit, quand tu as maintenant l'esprit, c'est lui qui va transformer tout ton être. C'est lui qui va enlever tous les plaisirs de la chair. Et c'est là où nous arrivons maintenant à la dernière étape, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire au-delà. Peut faire au-delà. Oui, c'est ce que Jésus nous parle dans Luc. Luc chapitre 4, lorsque tout est fini, alors il doit commencer l'œuvre, il dit, l'Esprit est sur moi. C'est-à-dire, je ne peux jamais accomplir ce que la mission pour laquelle je suis venu dans ce monde sans l'Esprit. Je suis loin de l'Esprit. Pas pour jouer. Pas pour jouer. Pas pour qu'on dise que moi je parle mieux en langue. Non. Jésus montre maintenant le pourquoi de l'esprit. C'est pour les pauvres, c'est pour les aveugles, c'est pour les malades, c'est pour tous ceux qui sont sous les liens du diable, tous ceux qui sont emprisonnés. Et moi je suis venu pour apporter la libération. Je suis venu, et ça c'est l'esprit de Dieu, parce qu'il est l'esprit au-dessus de tous les autres esprits. Il est au-dessus de tous les autres. Jésus, il a pu accomplir cela, c'est par l'Esprit de Dieu. Ainsi, Paul est en train de nous montrer, écoutez, sans la puissance qui doit agir en vous, Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faire. Il dit au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination. Je suis devant le malade. Nous avons connu vraiment un cas chez nous. Un frère qui sert le Seigneur. Il est arrivé vraiment en fait à l'hôpital. On a fait les examens. Le médecin fait le regard et dit, comment tu es venu? Non, je suis venu comme ça. Non, non. Non, non. C'est anormal. Il dit que ce que j'ai vu, c'est grave pour toi. Le frère dit, ah Jésus, le médecin lui pose la question, tu aimes, est-ce que toi tu es chrétien? Il dit oui, le médecin laisse tout, il dit écoute je veux te dire, à un certain moment nous sommes dépassés, débordés, moi aussi je suis aussi chrétien, nous allons prier. Ils ont commencé à prier, ils ont prié, le frère ne pouvait plus s'élever, paralysé, fini. Quand je suis parti le voir, j'avais des larmes. Mais aujourd'hui, il court. Pas de séquelles. Ça, c'est au-delà. Au-delà. Dieu fait au-delà. Les vies ne sont pas transformées. C'est parce que il y a un problème. Comment Dieu peut faire au-delà s'il n'y a pas sa puissance qui agit en vous? Il faut d'abord que la puissance commence à agir en vous jusqu'à ton niveau. Et maintenant, l'impossible, c'est à lui. C'est ce que cela signifie. Au-delà, c'est-à-dire, l'Esprit agit en moi. Je suis déjà enfant de Dieu. Je suis en train de marcher dans la sanctification. Je médite la parole de Dieu jour et nuit. Oui, je suis consacré. Mais il y a des choses devant lesquelles tu vas te retrouver limité. Et c'est là où l'Esprit qui agit en toi, en communication avec le Père, fait de sorte que le boiteux commence à marcher. Mais fait de sorte que on puisse amener le malade, le placer sous l'ombre de Pierre. Alors Pierre passait, seulement l'ombre pouvait apporter la guérison. Voilà pourquoi un homme a dit, c'est pas erreur qu'on a pu écrire Actes des Apôtres. Non, non. Parce qu'il n'y a aucun humain qui peut faire ce qui se trouve dans les Actes. Par contre, il était mieux qu'on puisse dire, ce sont les actes de l'Esprit par les apôtres. Par les apôtres. Comment Paul pouvait dire, Pierre et Jean, nous n'avons rien à te donner, mais tout ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est parce qu'ils avaient reçu l'Esprit. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos familles. Les vies ne sont pas transformées comme ce que je disais. Nous avons des cas terribles. Pourquoi? Le grand problème, est-ce qu'il y a une puissance qui agit en toi? Mais pas quelle puissance? Puissance que nous recevons du Saint-Esprit. C'est un monde d'esprit. Tu peux voir une autre puissance qui n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais nous dire une chose. Le Seigneur a trouvé le meilleur, c'est l'homme, de toute sa création. Dieu ne s'était pas découragé. Mais le plan de la rédemption, c'est un plan qui contient tout, c'est-à-dire ton salut, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire toutes les bénédictions possibles, c'est tout un bouquet. Dedans, il y a plusieurs choses. C'est ça le plan de la rédemption. Tu es restauré, tu es rempli. Mais maintenant le problème, Jésus, avant qu'il puisse souffler sur eux dans Jean, il leur a dit ceci. À 20, il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus n'a pas donné une autre mission différente de celle que lui avait reçue. C'est que nous nous sommes enrôlés. Quand tu es déjà chrétien, tu es enrôlé dans la mission qui n'est rien autre que la continuité de la mission de Jésus. Et comment tu peux être utile? Comment tu peux être utile si ce n'est que par la puissance qui doit agir en toi afin que Dieu fasse au-delà? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui désire cela? Et si cela est vraiment ton cas, est-ce que celui qui désire, est-ce qu'il peut se lever? Ce n'est pas de la magie, le temps est déjà passé. Ce n'est pas de la magie, mais c'est lui qui a soif. C'est lui qui a compris que je ne peux pas continuer à être dans la chair, dans le matériel. Je dois plus être au-delà. Merci Jésus. Merci Jésus.
nous avons suivi cette parole, eh bien, je vais vous demander à chacun de lever sa voix et de dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit chaque jour, à chaque instant. » J'ai besoin que l'Esprit déborde. Humainement parlant, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais toi, tu peux faire au-delà de ce que moi je peux faire. Tu peux faire même au-delà de ce que moi je pense. Ton Esprit, Seigneur. Ton Esprit. Alléluia. Ton Esprit.
Précieux Père Céleste, tu nous vois ce matin plus qu'assoiffé de toi, plus qu'assoiffé de ton esprit, car Seigneur, nous désirons de voir au-delà, de faire au-delà, d'aller au-delà. Alors Seigneur, ce matin ta parole est sortie pour que nous soupirions après le Saint-Esprit. Alors nous disons merci, Seigneur, parce que tu nous remplis ce matin de cette soif. Tu vois nos cœurs asséchés et tu es en train de nous faire vivre par ton Esprit ce matin. Bénis l'Esprit au-dedans de nous, afin que nous expérimentions d'autres dimensions insoupçonnées. Car limités nous sommes, car faibles nous sommes, mais avec ton esprit, nous sommes forts. Bénis cette parole dans le cœur, bénis le peuple, et surtout Seigneur, bénis ton serviteur, et que l'onction de cette parole soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié.